Net Campagne, bonjour. Troisième journée en Saône-et-Loire et c'est aujourd'hui que s'ouvre un festival du film documentaire dans des villages de la ruralité profonde. Il s'appelle Doc en Goguette. Deux associations sont à l'origine de cette manifestation depuis sa création en 2006. Les Films du Tilleul, qui est une fabrique de films institutionnels et de films documentaires, et l'association Rencontres et Animations Rurales de Genouilly. L'originalité tient en particulier au lieu de diffusion, plus ou moins improbable, comme nous l'écrit la joyeuse équipe, comme elle se fait appeler, la joyeuse équipe du festival, caserne de pompiers, CAF coopérative, mais aussi dans les EHPAD, dans les salles des fêtes. Aucun lieu n'est oublié dans le cadre de cette programmation qui dure jusqu'au 25 novembre. Le site, c'est Doc en Goguette, or Doc au pluriel, docengoguette.com. Décidément, les initiatives culturelles ne manquent pas dans ce département qui répare les pertes d'activité économique parfois par des offres multiples et variées, comme le festival des œufs. Rire. Comprenez que l'on associe l'humour aux produits viticoles locaux et à quelques spécialités gastronomiques du terroir. Le prochain festival aura lieu fin janvier l'année prochaine et est annoncé par son grand ordonnateur Antoine Demort. Mais tout de suite, une création qui mérite d'ouvrir cette séquence malgré son nom qui pourrait prêter à sourire, le Melting Popot. Marie Fauvet nous attend au téléphone.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Marie Fauvet, bonjour.
Bonjour.
Dans quelques jours, il y aura votre réunion, on appelle Assemblée Générale du Melting Popot.
Oui, le 20 novembre, on a l'Assemblée Générale de Melting Popot, qui est donc l'association sur laquelle on travaille depuis déjà plusieurs années. Association qui, comme son nom l'indique, va être un lieu de mélange, de partage, et notamment, donc, on va essayer de partager des locaux pour nous permettre de faire de la transformation alimentaire un peu dans tous les sens.
Alors, transformation alimentaire qui est ouverte aux particuliers, aux amateurs comme aux professionnels.
On va quand même plutôt démarrer par un lieu qui sera ouvert que à des professionnels. L'idée de notre territoire, là, sur le Clunisois, c'était de créer un chaînon manquant pour des gens qui ont besoin de travailler dans des conditions d'hygiène et de sécurité alimentaire. Et ces gens, c'est des professionnels des métiers de bouche, c'est des professionnels de l'agriculture qui ont besoin de transformer des produits bruts agricoles en produits transformés, donc en végétaux ou en animaux. Et puis c'était aussi une demande de notre syndicat de traitement des ordures ménagères de pouvoir travailler aussi la ramasse alimentaire, donc les produits qui sont actuellement jetés par les grandes surfaces. Mmh. On a aussi pour ambition de pouvoir être une cuisine centrale qui fera des repas en circuit court et si possible bio pour les enfants de la communauté de communes.
Ben oui, parce que c'est en fait la question que je voulais vous poser, parce que dans le témoignage et le profil du projet, vous présentez comme un espace de coworking alimentaire, donc un espace de travail partagé autour de l'élaboration de plats, transformation viande, et ensuite effectivement ça ressemble à une cuisine centrale.
On va être un projet qui va mêler des concepts qui existent déjà. Donc on ne sera pas que un espace de coworking alimentaire, on ne sera pas que une cuisine centrale, on ne sera pas que une cuisine de la ramasse, on ne sera pas un atelier de transformation collectif. On sera un mélange de tout ça. Et c'est le fait qu'on soit un mélange de tout ça qui est un peu pilote et innovant en France. Mais ça veut dire quand même qu'on aura besoin d'au moins 4 agréments sanitaires pour pouvoir démarrer notre activité. Et c'est un peu un challenge et un pari d'arriver à tout faire dans des bonnes conditions de planning et de sécurité sanitaire, on va dire.
Et il n'y a pas uniquement la transformation viande ou préparation viande. C'est fruits, légumes, il y a même un pôle pâtisserie, ouais, comme vous l'avez prévu.
Voilà, on a même été rattrapé assez récemment par les escargots. Parce que vous savez qu'on est en Bourgogne, donc on a réussi à intégrer dans les plans qui sont en cours d'élaboration là, avec les architectes, un petit espace pour les escargots.
Mmh. Alors justement, vous en êtes où du projet de construction ou d'élaboration d'un espace dédié à ce laboratoire?
Alors, nous, on est très fortement portés par les collectivités locales. Donc, c'est la communauté de communes qui a recruté un architecte des bureaux d'études pour envisager la réhabilitation d'un local sur le territoire du Clunisois. Donc on en est dans l'avant-projet sommaire de ce projet architectural et avec des archis qui nous ont promis un labo opérationnel à la fin de l'année 2019. Et du coup, l'association Melting Popote sera en charge, j'allais dire uniquement, de la gestion opérationnelle, donc de l'achat des matériels, de l'embauche des personnels qui vont nous permettre de fonctionner, parce qu'on va aussi embaucher forcément un boucher, un cuisinier, un gestionnaire qualité au minimum. On est sur un tandem, on va dire, collectivité et association, qui est sur les starting blocks pour le démarrage des travaux, et puis qui est aussi en piste pour essayer de se transformer assez vite en société coopérative d'intérêt collectif.
Oui, en SIC. Donc vous êtes en attente prochainement de candidats à un emploi chez vous et en même temps toujours de fournisseurs, j'imagine.
Ben, on est en attente, oui, de futurs usagers qui s'engagent dans ce projet plus avant, c'est-à-dire qu'on a un petit noyau dur d'une dizaine de personnes avec qui on travaille depuis plus de 2 ans, mais maintenant, c'est temps de dire, voilà, moi je suis agriculteur, je vais pouvoir amener 10 bêtes par an, je prends des parts sociales dans la future coopérative, et comptez sur moi pour ce projet, quoi. Donc on est à la recherche des futurs usagers encore et toujours, même si on en a déjà repéré une cinquantaine en tout, mais on peut encore accueillir un peu du monde.
Programme très original, hein, le Melting Popote dans le Clunisois. Ouais. Pour l'instant, on a une adresse électronique, hein, si vous voulez entrer en relation avec Marie, meltingpopote71@gmail.com. Adresse électronique que vous allez retrouver à nos pages d'émission. Bonne continuation pour ce beau projet de Melting Popote, Marie. Merci.
Merci beaucoup.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Les entreprises d'insertion sont de plus en plus nombreuses et les projets innovants de plus en plus pertinents, comme on vient de le comprendre avec le Melting Popote. Or, insérer ne signifie pas donner une occupation provisoire à une personne sans emploi et sans ressources. Insérer, c'est aussi conduire une personne vers une voie professionnelle, ascensionnelle, dans une filière innovante. J'ai mentionné rapidement hier le cas du groupe ID, qui donne du travail et des qualifications à près de 4000 personnes dans ces différentes entreprises d'insertion, comme IDEM, IDEM, entreprise dédiée à la production d'écomatériaux et plus particulièrement de fibres de carton. IDEM a mis au point un process unique au monde de recyclage de carton en un produit isolant baptisé Novidem. En effet, la ouate de cellulose est un isolant écologique de haute qualité qui concurrence les isolants minéraux. La Fédération d'ailleurs française du bâtiment a fait valoir les qualités du produit dans un guide de matériaux biosourcés qu'elle a édité en 2015. Et je cite, elle vante la performance acoustique et thermique du produit, la régulation hydrique qu'il réalise et puis son intérêt dans une logique d'économie circulaire. L'entreprise qui transforme 1800 tonnes de carton chaque année a pris place près de Chalon-sur-Saône à Fragnes sur le site de l'ancienne usine Kodak, preuve que l'insertion vient au secours des hommes et de l'économie traditionnelle, loin des clichés. Je dis ça à cause de Kodak, ça c'était facile. Le site c'est novidem.fr. Antoine Demort, bonjour.
Bonjour Philippe.
Je devrais savoir qu'il y a depuis 2015 donc ce festival qui mêle humour et dégustation de vin, les œufs nourrir. Alors première question Antoine, qui est le prétexte de l'exercice de l'autre? C'est le vin pour découvrir l'humour ou l'humour pour découvrir le vin?
C'est la combinaison des deux, c'est assez compliqué de répondre comme ça. De tout temps, on va dire que l'humour et les bons produits se sont divinement mélangés. On s'est servi du prétexte d'être dans une belle région, la côte chalonnaise, et donc du coup d'avoir des très bons vins dans la région de Givry. Et puis moi, je me suis servi de mon bagage de comédien pour aller sélectionner des spectacles, des coups de cœur et de mélanger tout ça.
Et comment vous organisez vos soirées entre le spectacle et la dégustation des produits locaux ?
Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est que le spectateur ne soit pas dans la consommation, la passivité, entre guillemets, d'arriver au spectacle, le voir et de repartir. Donc ce qu'on a mis en place, c'est une sorte d'accueil qui dure une heure et quart, durant lesquelles les gens se baladent avec un verre dans la salle qui est aménagée, et ils vont faire des dégustations, rencontrer les viticulteurs, déguster aussi d'autres produits. Et ensuite, au bout d'une heure et quart, les gens se mettent enfin assis et le spectacle démarre.
Et vous avez un lieu unique pour le festival ou il est itinérant ?
Il est dans une forme un peu hybride, à savoir qu'on a des petits partenariats avec des municipalités, avec un centre culturel qui est dans la région de Chalon. ce qui nous permet d'exporter un petit peu le festival. On l'a fait venir dans des cafés culturels, on le fait venir dans le centre culturel. Et puis le centre du festival se passe à Givry, dans la salle des fêtes, que l'on aménage totalement en salle de spectacle pour près de 4 jours là, de festival cette année.
Et vous dites que les collectivités, les habitants participent à l'organisation, en tout cas à la mise en place de votre festival.
Nous, on est parti du principe qu'il fallait que ce soit un événement qui a un profond caractère humain et familial. On n'arrivera jamais à faire un très grand festival. On a envie de quelque chose qui soit plus intimiste et dans lequel les gens sont partie prenante. Et effectivement, on est très surpris, étant donné que ce soit des commerçants, que ce soit des entreprises, beaucoup sont bénévoles ou alors donnent de leur temps, du matériel, donnent de l'argent aussi à l'association pour nous aider. Donc on a un tissu qui est vraiment fort depuis quelques années, parce que le festival est tout jeune, depuis 2015, et maintenant on en est à plus de 40 bénévoles qui travaillent dessus.
Vous n'avez pas demandé à Romain Bouteille de parrainer le festival ?
Ah non, non, on n'y a pas pensé. C'est vrai que Romain Bouteille, c'est une sommité. On a reçu pas mal de gens qui sont des grands noms, Fred Sigrist, Guillermo Guise, Nicole Ferroni, mais c'est vrai qu'on n'a pas mis en place ce petit clin d'œil d'un parrain pour une édition. On va y réfléchir.
Ouais, comment vous organisez, Antoine, parce que vous avez un budget très serré jusqu'à présent?
Oui, moi j'ai démarré quasiment tout seul en essayant d'être levé à 6h du matin quand les billetteries SNCF ouvraient, dans l'espoir de ne pas avoir des billets trop chers pour nos artistes. Et maintenant, on a coordonné notre association pour aller à la chasse aux partenaires. Ce qui est important de dire, c'est que nous, on ne touche pas de subventions publiques au sens monétaire du terme. Par contre, on est allé voir les collectivités. On leur a dit, voilà, ce qui nous intéresse, c'est une mise à disposition de salles, de matériel, d'agents. Donc la collectivité nous aide comme ça. Et puis nous, on est allé voir des partenaires privés, des petites entreprises, des commerçants, et certains ont bien voulu en tout cas nous donner un petit peu d'argent, ce qui fait qu'on a un tiers maintenant de notre budget qui est soutenu par du privé.
Ah oui, vous pourriez être soutenu par les viticulteurs eux-mêmes.
Ça, c'est l'autre aspect en tout cas du partenariat. Les viticulteurs nous offrent des bouteilles, nous offrent la dégustation.
Ah, vous êtes payé en liquide, c'est ça.
Magnum également à nos artistes. Ouais.
D'accord, vous êtes payé en liquide, donc j'ai bien compris. Prochaine édition, la 5e déjà, donc se tiendra du 26 janvier au 2 février. On peut déjà révéler 2 ou 3 grands rendez-vous?
Alors, on révèle toujours un peu plus tard, nous, notre programmation. Ce qu'on peut en dire, en tout cas, c'est que la soirée d'ouverture, le 26 janvier, sera une soirée qui sera dédiée au vin. Donc, c'est une dégustation qui sera olfactive, avec 50 arômes, et ensuite 4 à 5 vins à déguster, avec un expert. Et ensuite, on aura un spectacle plutôt d'art de la rue, mais qui sera en salle pour des raisons évidentes de météorologie. Oui. Donc ça ouvre un petit peu le panel de l'humour. Et ensuite, la semaine suivante, on va avoir de l'humour musical, des pointures de l'improvisation, un plateau découverte et un spectacle tête d'affiche. Autant vous dire que le rendez-vous est assez concentré.
Lesenourrir.fr, vous avez aussi à nos pages le lien avec le site d'Antoine, antoinedemort.fr, et puis la page Facebook du Festival Le Nourrir du 26 janvier au 2 février. Merci Antoine.
Merci Philippe.
Vous êtes formé à l'activité agricole et plus particulièrement à la production en permaculture. Vous cherchez un terrain d'exercice. J'ai ce qu'il faut pour vous. C'est un coup de pouce pour conclure cette émission. On va changer de département pour aller en Charente-Maritime puisque la commune de l'île d'Aix veut relancer une activité agricole sur l'île. C'est pas mal, les îles du Ponant. L'association des îles d'ailleurs y participe. La fédération régionale de l'agriculture biologique, Terre de Liens, le conservatoire du littoral. Si vous êtes intéressé, ne vous gênez pas, les dépôts de candidature sont lancés, ouverts, vous allez trouver un site pour vous inscrire avec le détail du projet de cette activité prochaine installée sur l'île d'Aix, donc en Charente-Maritime. Nos pages d'émission, profitez-en bien. Justement, je profite un petit peu du temps aussi pour vous qui me reste pour vous annoncer que la semaine prochaine nous serons dans le Jura et puis en décembre, nous prenons toujours des informations en provenance des départements de l'Eure, de la Haute-Loire et de la Lozère. N'hésitez pas à nous écrire depuis ces départements.